Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité en une citation, je dirais « Si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêchera l'autre de dormir. » Difficile de parler de lui sans faire tomber une avalanche de chiffres pharaoniques. Cette année, il a été élu personnalité préférée des Français. Je soupçonne que ça soit aussi le cas dans plein d'autres pays. En presque 20 ans de carrière, il cumule plus de 2 millions d'albums vendus, plus d'1 milliard de vues sur YouTube et devient depuis 2017 le plus gros vendeur de tickets de concert en France, avec en moyenne 950 000 entrées par an. Sa devise.
Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es.
Et c'est peu de le dire au regard de la façon dont le petit Saïd est devenu l'immense soprano.
Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Son histoire digne d'un conte de fées démarre suite au triste constat que...
Le monde a le cœur déchiré.
Oui, le cœur atrophié par les injustices auxquelles le mélancolique anonyme n'est pas insensible. Alors, pour guérir de ses maux, il utilise les mots et la musique. Il le dit lui-même.
J'ai pris le risque de faire de la musique, d'étaler ma vie au public pour soigner un mal de vivre.
Et ça fonctionne. Il se soigne et soigne les autres par la même occasion. Vaillant et positif, il n'a de cesse que de répéter qu'il faut
juste le temps d'un instant, voir la vie autrement.
Ne pas se laisser aller à refaire le match et le passé, conscient que l'on
ne peut vivre que le présent.
Alors cet artiste, pas comme les autres, profite de son succès pour distiller à tout va de la bienveillance, de la bonne humeur et de l'espoir en motivant les troupes dans les stades de Marseille jusqu'en Alaska en passant par le Cameroun. Tel un coach en mode
il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Allez.
Son moteur,
c'est pour l'amour d'un peuple, l'amour d'une zik, l'amour d'une jeunesse, l'amour qu'on palpe avec peu de fric, mais avec tant de richesse.
On dit souvent que l'argent et la notoriété changent les gens. Je pense plutôt qu'il les révèle. Car même s'il en a fait du chemin depuis psychiatre de la rime, et qu'aujourd'hui il...
Roule.
En étant devenu par la même occasion... De sourire, de reconnaissance et d'amour, il n'en oublie pas moins ses valeurs profondément humaine. Il a d'ailleurs créé sa propre fondation dans laquelle il tente d'aider principalement les enfants malades et démunis des Comores jusqu'à Saint-Denis. Bon, ça c'était pour la rime pété en mille. Fédérant le monde entier sans différencier les couleurs, les religions, les classes sociales et les générations. Malheureusement, de nos jours, c'est plutôt rare car...
L'époque a changé.
Ah ça. Alors, ce n'est pas l'artiste que nous recevons aujourd'hui, mais l'homme formidable qu'il est devenu. On peut dire que... Ah ouais, je suis en feu, je suis trop contente qu'il nous ait fait l'honneur de sa présence. Je sais déjà que... Oui, aujourd'hui, nous sommes tous unis et réunis pour accueillir Monsieur Sopra Baba dans Légendes Urbaines, Kunsa.
Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps.
Soprano, dans les studios de Légendes Urbaines. Bienvenue Sopra.
Merci.
Quel bonheur de t'avoir parmi nous.
Ah, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, ça fait plaisir depuis le temps.
Ah ça? Écoute, ça se fait enfin, t'as un emploi du temps justement tellement incroyable, donc... Cette année, juste. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mal pris, que t'as mis un peu de temps à venir dans Légendes Urbaines, si tu veux. T'étais juste en train de faire 5 stades, 17 festivals, 68 zéniths. T'es juré de The Voice. Tu fais comment à un moment donné?
Oh là là, c'est une grosse organisation, on est beaucoup. Après, j'ai de la chance, je suis entouré des miens.
Est-ce que tu réalises réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui? T'es le plus gros artiste français.
Ben, en fait, je réalise pas encore. Là où je le réalise, la première fois où je me suis dit, il se passe un truc, je sais que tu vas me prendre pour un fou, c'est le premier stade de Vélodrome qu'on a fait il y a 2 ans. Je suis arrivé, je commence à faire 2 chansons, et après, d'un coup, la musique, elle s'arrête, et je vois tout le monde, la lumière s'allume. Et là, je me dis, waouh!
Pour tous les gens qui nous suivent dans le monde entier, c'est à Marseille, et
oui.
C'est donc un énorme stade. Combien de personnes en capacité, tu sais?
65 000 personnes. Ouais.
Incroyable. T'as commencé, on fait un petit coucou d'ailleurs à Alonso et Vincenzo qui te back sur scène d'ailleurs, ouais. Vince. Psychiatre de la rime, groupe de rap qui a vraiment marqué son temps. T'as changé de style au fur et à mesure, bien que tu aies été l'un des premiers à mélanger le chant,
ouais,
et le rap. Parce que les gens me disent souvent, oui, mais Soprano, ça y est, il a quitté le rap, il chante maintenant. et j'ai eu de longs débats avec pas mal de gens dans le game,
ouais,
disant, mais souvenez-vous qu'en fait... C'est l'un des précurseurs du chant, c'est l'un des rares qui a osé, tu vas chanter.
C'est ça. En fait, moi, mon style, à la base, je voulais pas faire du rap. Je connaissais pas le rap. Je suis tombé sur Michael Jackson. Et après, en premier avant le rap, je suis tombé sur la New Jack,
mm-hmm,
à l'époque. Et moi, je voulais faire de la New Jack. J'étais là à l'époque où il y avait les New Edition de Bobby Brown. Il y avait R. Kelly qui était dans son premier groupe et tout ça. Et moi, j'étais un fan de R&B, New Jack, Soul. J'étais à fond sur ça. Quand je suis au quartier, la première chose qu'on écoute, c'est le rap.
Mmh.
Donc du coup, quand le rap arrive dans ma tête, je me suis dit, ben, vu que j'ai envie de chanter, en plus j'étais dans les madrassas, c'est les écoles coraniques, où je chantais aussi.
Ouais.
Je me suis dit, ben, moi j'aime bien le rap. Je vais mélanger, ça va être mon style. À l'époque, tous les rappeurs avaient un délire, un timbre, un univers. Et moi, mon univers, c'était le rap chant. Donc, dans mon groupe, avec les psychiatres, eh ben, tu pouvais entendre, par exemple, le monde Stone. C'était moi qui faisais, mm-hmm, le refrain chanté. Il y avait des morceaux dans les albums des psychiatres où ça chantait, ça toujours chantait.
Bien sûr.
Je rappais et je chantais. C'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde y chante.
Ouais.
Donc, du coup, comme moi, ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai essayé de mélanger beaucoup de choses. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, j'ai jamais été dans le... j'ai jamais été vulgaire même avant, ou j'étais jamais été dans le... Je vends la drogue et tout ça. Donc, quand je chante aujourd'hui, les gens, ils peuvent dire que c'est de la variété parce que je suis pas...
Mais au niveau des lyrics, finalement, c'est la même chose. Enfin, tu prends exactement les mêmes valeurs.
Je prends les mêmes choses qu'avant, mais c'est juste que...
La forme
comme
est différente.
Je suis beaucoup plus populaire. Bien sûr que ça va prendre une ampleur un peu différente, mais c'est le rap qui, le hip-hop en général aujourd'hui, s'est adapté.
Origine des Comores, consécration absolue. Tu deviens chevalier de l'ordre du Croissant, donc ça revient un peu à avoir la Légion d'honneur en fait.
Ouais.
Comment t'as vécu ce moment, encore une
en
fois
fait, je l'ai vécu à travers les yeux de mes parents.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'en fait, moi je suis loin des trucs politiques, j'aime pas trop ça, j'essaie de rester concentré. Je suis un musicien, un artiste. Donc du coup, quand on m'a appelé, j'essaye de quand même d'aller, mais j'y vais doucement. Et en fait, je vois la fierté dans les yeux de mes parents, je vois la fierté dans le peuple comorien, et je suis venu de bon cœur en fait.
Tu parles de tes parents, notamment de ton père. Quand t'as passé ton bac, tu l'as loupé une première fois,
ouais,
et en fait, il t'a rappelé que ça a été tellement dur pour lui et pour ta mère que c'est, voilà, t'es un enfant d'immigré, tu te dois d'être à la hauteur, et donc du coup ça t'a vraiment fait un électrochoc et ça a complètement changé ta conscience en fait, ce discours de ton père. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là?
En fait, moi je voyais mon père, il parlait jamais, mon père africain, tu le sais comment ils sont, hein, ils sont, mmh, la maison, ils sont là devant la télécommande d'à côté, ils te parlent pas beaucoup.
C'était même toi la télécommande à l'époque où il y avait pas de télécommande.
Voilà, t'as compris. Hey, lève-toi, tu es dans ta chambre, viens changer de chaîne. Et toi tu travailles, lui il est juste devant et tout. Ah, tu connais ça par cœur. Donc mon père, j'ai jamais eu vraiment de réelle conversation. Pourtant mon père, ça a toujours été de la bombe atomique, et super gentil, il a jamais, mais on n'a jamais eu de vraie conversation. Sauf un jour, je suis dans la voiture avec lui, il y a une chanson de Psychiatre de la Rime qui passe, où le titre à la radio, il dit, voici le nouveau morceau, un groupe qui vient, qui commence qu'on découvre, avec un nouveau morceau qui s'appelle Le Son des Bandits. Moi, tout fier, je passe à la radio, gros papa, je suis là plus. Et tout. Le son des bandits. Mon père est longtemps, le son des bandits. Il connaît pas le rap, comprend rien à la musique. Lui, c'est que la musique, c'est fait pour danser. C'est pas un truc politique, c'est pas un truc, lui, il comprend pas. T'es un bandit, toi? J'ai dit non, mais c'est la musique. Et là, il me regarde et il me dit
un moment de solitude.
Ah ouais, non, là, c'était dur. Il me dit, moi, j'ai fait tout ça pour que tu sois bandit. Sur le coup, ça fait écho jusqu'au jour où j'arrive et que je rate le bac, qu'il rentre dans ma chambre, et là, c'est la deuxième fois où il me parle. Il rentre dans ma chambre, à l'heure de la prière du matin, il se met sur mon lit, comme ça, au bord du lit, il s'énerve pas, tu sens qu'il a la voix tremblante de quelqu'un qui a les larmes aux yeux, et il te dit, j'ai pas vu mon père mourir, j'ai pas vu ma mère mourir, j'ai pas vu mes oncles, j'ai tout quitté pour que toi, tu sois là, tu aies une meilleure vie que moi j'ai eue, j'ai tout fait. Ça veut dire, on m'a traité de sale noire, j'ai nettoyé les toilettes de plein d'hôtels, d'avions, de bateaux. J'ai fait le pire truc pour que toi, tu travailles pas bien à l'école, tu dises au monde entier que tu fais le son des bandits. Et du coup, moi, ça m'a fait un tilt, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a donné une vision dans ma musique qui est aujourd'hui peut-être beaucoup plus optimiste, positive, même si je ne ferme pas les yeux sur l'actualité.
Tu transmets ça à tes enfants aussi, ce genre de choses?
Oui, tout le temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, je fais de la musique de père de famille, comme on dit. Moi, je n'ai pas honte de le dire. D'autres, peut-être, vont se dire « Non, moi, je suis strict. » Non, moi, je suis un père de famille, j'ai 40 ans. Mes enfants, ils écoutent ma musique. Donc, bien sûr, dans ce que je vais dire, je vais faire attention pour eux.
Tu partages avec ta fondation, la fondation Soprano, dans laquelle tu aides donc beaucoup les enfants, notamment alors en envoyant parfois aux Comores du matériel médical dans les hôpitaux ou des fournitures scolaires. Tu rencontres aussi beaucoup de jeunes, t'as beaucoup de pudeur là-dessus, tu rencontres à chaque balance de concert avant les gros concerts, tu rencontres des associations de jeunes malades. Parle-nous un peu de toutes ces actions.
En fait, c'est venu parce qu'on était parti une fois en Côte d'Ivoire. J'étais parti avec les Magic System. Et tu vois, les Magic System, on a l'image en France du groupe qui nous fait danser l'été. Qui est là pour faire danser. Les gens, ils ne sont pas conscients
de
ce que...
Le FEMUA, tout ça là,
ils ne savent pas le FEMUA, comment ils changent la vie des gens là-bas. Et en fait, quand je suis parti là-bas, j'étais venu pour le deuxième FEMUA, je crois. Je me rappelle plus le premier, lequel de FEMUA je suis venu. Et on a inauguré une école et ramené du plein de matériel médical pour les hôpitaux là-bas. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je voyais des enfants qui venaient aller à l'école. Je suis venu la deuxième année, j'ai vu les enfants, ils étaient encore à l'école, d'autres qui sont arrivés. On leur a acheté des lunettes pour qu'avec ces lunettes, ils puissent travailler. Je suis parti, revenu 10 ans après. J'ai vu les enfants, ils ont grandi. Il y avait une classe qui s'appelait une classe spéciale Soprano. Ils ont fait une crèche à côté. J'ai dit, mais c'est ça, c'est les vrais trucs.
Bien sûr.
Et là, d'un coup, je me suis dit, il faut faire la même chose aux Comores. Et c'est là où j'ai monté ma fondation, où on a essayé de se concentrer surtout sur le médical et sur...
L'éducation.
Sur l'éducation pour les enfants. Parce que je trouve que c'est... souvent, j'aime bien une phrase de Medine dans une chanson. Il dit, j'essaie les adultes, on ne peut plus les réparer. Je crois qu'il avait dit une phrase comme ça. Il a dit, donc je m'occupe des petits.
Des enfants.
Des enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir.
Bien
sûr. Donc si eux, tu leur donnes les moyens, peut-être que demain, ce sera mieux. Voilà.
On peut participer, donner des fournitures, etc. à la fondation. De quelle façon on peut participer?
En fait, souvent, on me demande ça. Mais en fait, en général, au début, quand on commençait, maintenant, je ne demande pas beaucoup. En fait, je fais moi. C'est moi qui fais le boulot, comme ça, personne...
Tu dois rien à personne.
Voilà, okay, par exemple, quand je fais des pubs pour Bic, quand je fais des pubs pour je ne sais pas quoi, ou quand je fais The Voice, quand je fais ça, les cachets, ils partent là, on essaye de prendre, on achète des ambulances, on achète des... on demande à ces marques de nous aider, c'est-à-dire, je signe, ok, on fait la pub, mais par exemple, tu me donnes des stylos, des cahiers, des tatatatata, que j'envoie là-bas. Et en fait, c'est le deal que j'ai avec eux, comme ça, je ne demande pas.
Et tu fais.
Voilà, je fais.
Tu regardes encore des mangas aussi à ton âge. T'es féru de séries, t'arrêtes pas, tu te bousilles aux séries.
Oui,
manga, Dragon Ball Z, c'est ta passion.
Tout comme tout le monde, toute ma génération, quoi. Toute ma génération, Dragon Ball Z, Death Note, tous les mangas, je les regarde. Mais après, en fait, en termes généraux, pas que les mangas, je suis un série addict. Mm-hmm. Ça veut dire avec, tu as vu le planning tout à l'heure, tu me disais comment tu fais. Mais en fait, j'essaye de me couper avec les séries. Les séries ont changé ma vie.
Tu fais appel à ton cerveau reptilien.
Voilà, ça m'aide à couper de mon travail, ça m'aide à ne pas penser à n'importe quoi. Et surtout, ça m'inspire beaucoup parce que les mecs qui écrivent les mangas ou qui écrivent des séries.
Incroyable.
Voilà, du coup, ça m'a fait faire une chanson comme Hiro Nakamura.
Bien sûr.
Tu vois, parce que justement, ils ont tellement d'inspiration, d'imagination que ça m'en donne aussi.
Et donc, du coup, pour te remercier quand même, on t'a trouvé un invité mystère de Marc, juste pour toi. Écoute, regarde.
Bonjour, Soprano. Je déteste m'abaisser à parler aux humains. Et de surcroît, je ne supportais pas l'idée de donner à un prince Saiyan le ridicule de saluer un humain qui a eu la misérable idée de prendre un nom donné aux chanteuses. Pourquoi pas Saïd la calasse pendant qu'il y était. Mais Bulma t'aime bien. Il m'a dit que tu étais quelqu'un de bien. Alors soit, pour lui faire plaisir, j'accepte de t'adresser ces quelques mots. Et une fois n'est pas coutume, de te souhaiter de bonnes choses pour la suite de ta petite vie avec tes petites notes. Et tes petites chansons. Mais je veux, moi aussi, entendre le son de ta voix. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Adieu, petit homme.
Classique. C'est énorme quand même. Vegeta comme invité. Oh, là, vous avez tapé fort.
C'est la classe ou pas? Grand merci à Eric Legrand, qui est la doublure voix de Vegeta.
Merci Vegeta.
Qui a accepté Vegeta Legrand.
Voilà, énorme.
Sopra. Il est déjà presque l'heure de se quitter. Ça va vite, tu vois. Alors, t'en tournée. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, il y a des milliards de millions de dates. Je ne peux pas lire toutes les dates, d'accord, de Soprano. Ça n'a pas de sens, qu'on soit bien d'accord. On peut retrouver ça sur tes réseaux, partout,
oui,
de toute façon, les dates. On a une espèce de rituel comme ça, parce qu'on est suivi dans le monde entier, tu le sais, ouais. Sopra. Quel serait le message universel que tu aurais à passer?
Ben, le message universel que j'aurais à passer, je vais pas faire le bisounours, hein, je vais faire un message clair, simple. C'est la tolérance, c'est la clé de la paix. Voilà. Mmh. À un moment donné, si tu acceptes les gens qui portent un foulard, une casquette, ou qui parlent de telle ou telle manière, ou qui aiment telle ou telle musique, ou qui aiment telle ou telle personne, eh ben, à un moment donné, on vit en paix. Et au moins pour les générations qui suivent, je pense que c'est le plus gros message. Voilà.
Merci. Merci, merci, merci beaucoup, Sopra.
Merci à toi.
C'était un bonheur de te recevoir.
Moi aussi, ça fait plaisir.
Ouais.
Depuis le temps.
Ouais. Comme jamais. Entre deux stades, tu vois. On va se quitter avec ton live de À nos héros du quotidien. À la guitare, Camille Rossi, avec des choristes aussi, que tu es venu en grosse équipe, Brice, Brenda et Eva. La famille, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous connaissez, pour la version longue et bien sûr YouTube. Allez sur Insta, sur Facebook, on vous répond, vous follow back, tout ça comme d'habitude. Merci à ma Dream Team, RFI, France 24, vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je dise tous vos noms, mais voilà, la famille, on est ensemble, fort. Et puis, vous connaissez la chanson. Paix. Amour, lumière sur vous. One love. Paix, amour, lumière sur toi.
Merci.
One love, Sopra.
À toute l'équipe aussi. Merci beaucoup.
Merci.
Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles m'ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous. S'est allumé et bah. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci. Pas sous les projecteurs, à tous ces héros du quotidien. Cette chanson vous est dédicacée. Venu tout droit de Marseille, Baba, son frère Baba. Bisous à vous tous.
Session Lab, un podcast musical.